Bonjour et merci d'être avec nous pour votre ouvrage « Tous vaccinés, tous protégés ». Vous êtes biostatisticienne, donc spécialiste des bonnes pratiques pour l'industrie pharmaceutique. Est-ce que ça vous définit correctement ?
Non, pas tout à fait. Non, biostatisticien pour l'industrie pharmaceutique, c'est celui qui est le garant, on va dire, de la méthode d'un essai clinique et qui en fournit, qui en analyse les résultats, qui fournit donc les tableaux qui vont être intégrés dans les rapports cliniques, qui sont fournis aux autorités pour approuver un médicament, quel qu'il soit, ou un vaccin, ou pas.
Alors, vous êtes l'auteur de « Tous vaccinés, tous protégés », un gros pavé qui analyse justement le vaccin Covid-19, c'est l'éditeur Guy Trédaniel. C'est un livre qui, bien qu'étant très fouillé, et compréhensible. On peut dire qu'une grande partie du livre est basée sur votre rapport sur les bonnes pratiques, qui est lui-même basé sur les documents de la FDA américaine que vous avez réalisé en janvier 2022 sur le vaccin Covid.
Oui, alors j'ai récupéré tous les documents qui étaient disponibles dès décembre 2020. Ce que nos auditeurs ne savent probablement pas, c'est que depuis le début, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de transparence sur ces vaccins, mais si, tous les documents sont en ligne depuis la première autorisation, c'est-à-dire décembre 2020, avec le rapport clinique sur les adultes, les plus de 16 ans. Ensuite, on aura les rapports cliniques, c'est-à-dire avec les résultats. Un rapport clinique, c'est un document qui intègre tous les tableaux de résultats. On aura celui des adolescents en avril 2021, puis celui des 5-11 ans en septembre 2021, ou octobre, et celui des bébés, donc des plus de 6 mois à 4 ans, en juin 2022. Donc on peut récupérer ces documents-là qui sont des résultats, vraiment de ce qui s'est vraiment passé en détail de tous les résultats d'essais cliniques, ou en partie, on va dire, puisque tout n'est pas dans ces documents-là, puisque pour la bonne raison que s'ils présentent trop de résultats, ils se tirent une balle dans le pied. Et donc on a aussi ce qu'on appelle le plan de gestion des risques, disponible depuis décembre 2020, qui est un document essentiel, puisque c'est une liste, toutes les inconnues, on va dire, au moment où on donne les autorisations et tous les risques déjà identifiés. Donc en fait, ce que j'ai analysé, c'est que mes conclusions à cette époque-là, janvier 2022, c'est qu'il faut absolument suspendre toute vaccination avec ces vaccins pour la bonne raison que les essais cliniques ne sont pas valides puisqu'ils ne respectent pas la norme d'éthique et de qualité que sont ces fameuses bonnes pratiques cliniques que doivent respecter tous les essais cliniques. Donc c'est un travail méthodologique, un peu d'assureur qualité, et on va dire presque d'agence de santé, hein. Un travail qu'auraient dû faire nos agences pour refuser les autorisations de ces produits qu'ils ont acceptés avec beaucoup d'empressement, malgré tous les problèmes qu'on trouve dans ces essais.
Alors, vous êtes l'une des seules à avoir osé parler officiellement, même si, en préparant cette émission, vous me disiez que de nombreux confrères vous ont remercié de votre prise de position. Ces personnes qui sont réellement de vrais experts et non pas des médecins de plateau, par exemple, ou d'autres disciplines, de personnes qui n'ont pas ce recul et cette habitude de travailler sur la méthodologie, les bonnes pratiques et tout ce qui va être essai clinique, qui est tellement important au cœur de cette question de la vaccination Covid. Votre travail, si on veut le rendre pédagogique, et c'est ce que vous expliquez, c'est que les critères ne sont pas représentatifs de la vie réelle, c'est-à-dire des manquements méthodologiques. En gros, des critères partiels donnent des résultats qui ne correspondent pas à la maladie réelle. En fait,
alors, pour faire très très simple, hein, pour vous donner un exemple, si vous mesurez, je ne sais pas, vous êtes dans une étude en neurologie, vous mesurez des symptômes urinaires. Bon, si vous mesurez que la moitié des symptômes, vous allez conclure, par exemple, à une efficacité qui n'existe pas. C'est un peu ce qui a été fait dans ce fameux 95% d'efficacité du vaccin Pfizer. C'est un critère qui ne mesure pas la maladie. Est-ce que la personne a eu le Covid ou pas le Covid? Donc ça ne veut pas dire 95% de la population est protégée. Pas du tout.
Ouais, c'est ce que vous expliquez. Il y a un biais. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un biais. En tout cas, il y a une subtilité. Ce sont des personnes qui sont atteintes d'un Covid léger ou modéré, détecté par test PCR. Donc là, il y a deux éléments intéressants. C'est qu'on ne fait pas une sérologie qui est indiscutable, mais un test PCR.
Alors, on l'a fait. On fait la sérologie, donc la prise de sang pour détecter si les participants ont eu le Covid à ce moment-là. Dans l'essai clinique, on le fait. Sauf que, ben, on ne publie pas ces résultats. Et quand on récupère la base de données de l'essai clinique qui a été rendue publique sur décision judiciaire et qu'on refait les calculs, puisque ben, quand on est biostatisticien, on sait se replonger dans une base de données d'un essai clinique, donc on reprogramme les résultats. Et là, on trouve à peu près 55% d'efficacité sur qui a eu le Covid ou qui ne l'a pas eu. C'est très très loin des 95% annoncés. Et puis en plus, voilà, tout ce qui a été annoncé à la population, les vaccins sont sûrs et efficaces. Quand on analyse des gens pendant 3 mois et dont la moitié est suivie de moins de 2 mois, comment on peut dire que les vaccins sont sûrs? C'est-à-dire que là, apparemment, dans l'essai clinique, sur 3 mois, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre d'effets indésirables graves qui n'ont pas été reportés. Et pourtant, donc, ces effets, forcément, la tolérance est fausse. Donc,
ces effets, Christine Coton, ces effets secondaires graves, est-ce qu'ils sont inscrits dans un endroit dans les rapports d'études, etc., mais qui ne sont pas dans les conclusions? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire?
Non, pas du tout. Ils ne sont pas reportés par les médecins qui ont recruté certains participants dans la base de données. C'est pire que ça. Alors, l'info quand même la plus importante qu'il faut vraiment faire passer aux auditeurs, c'est que si on reste sur le Pfizer, c'est 95% d'efficacité. Le vaccin qui a été administré à la population n'est pas celui de l'essai clinique. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, ça devait être vers septembre-octobre 2020, qu'ils ne pourraient pas produire des milliards de doses avec la formule, on va dire, avec les usines utilisées pour produire le vaccin de l'essai clinique, dans lequel ils ont recruté à peu près à ce jour 44 000 personnes, l'essai clinique principal, on va dire, puisqu'il y en a plusieurs. Et donc, ils ont modifié la formule de fabrication et ils ont fabriqué donc un autre vaccin sur d'autres chaînes de production. Et ce vaccin-là, ce nouveau vaccin, on va dire, qui donc n'est pas celui pour lequel on a eu 95% d'efficacité. C'est un nouveau produit fabriqué différemment. Et aujourd'hui, dans le monde entier, des chercheurs se sont penchés là-dessus et ils trouvent un certain nombre de contaminations d'ADN. Enfin, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu le vaccin Pfizer, et quand on vous a dit 95% d'efficacité, ce n'est pas celui que vous avez eu. Ce nouveau procédé de fabrication, on n'a aucun résultat d'efficacité dessus. Il a été donné à 250 personnes dans l'essai clinique. On était censé comparer les résultats de ces personnes-là avec le procédé numéro 1, en termes de tolérance et de taux d'anticorps, et on ne l'a jamais vu non plus.
Par contre, ce qu'on sait, c'est
que l'Europe, l'Agence européenne du médicament, l'EMA, quand elle a donné l'autorisation, elle avait émis une dizaine de jours auparavant un certain nombre d'objections majeures en disant « attention, ce nouveau procédé n'a pas le même taux d'ARN intègre que le vaccin d'essai clinique ». Et donc, c'était des objections majeures à l'autorisation. Et bizarrement, tout ça a disparu.
Deux éléments que vous nous donnez, si j'ai bien résumé, si j'ai bien compris, c'est que ces 95% d'efficacité théorique deviennent, avec votre calcul, 55%, et que ensuite, de ces 55% sur le produit initial, il y a une autre formule qui est finalement à grande échelle qui remet en question même ces 55% d'efficacité et qui remet aussi en question toute l'étude au niveau des effets secondaires. Est-ce que c'est ça qu'on peut conclure?
Alors, il sort des résultats sur un procédé de fabrication qui finalement ne veut pas être celui qui est autorisé par les autorités de santé. Ce qui est du jamais vu dans l'industrie pharmaceutique. Donc pour le coup, là, on a vraiment en vie réelle, moi ce que j'appelle la cobayisation de la population, c'est-à-dire qu'on a vraiment vacciné les gens avec un produit sur lequel on ne savait rien, ni la tolérance, ni l'efficacité, ni les anticorps, rien. Alors déjà sur le premier procédé, tout était faux, on va dire, ou bancal, et sur le deuxième, là pour le coup, ben, on ne sait rien.
Et donc, avec ce que vous dites, l'ouvrage que vous avez écrit, j'imagine que vous êtes en procès avec des labos, avec des agences de santé.
Moi, je n'ai pas porté plainte directement parce que c'est quand même très compliqué pour moi.
Vous êtes l'objet de plainte, vous, parce que ce que vous dites est très grave?
Ah non, moi, j'ai pas. Je risque pas de faire l'objet de plainte puisque personne à ce jour n'a réussi à contredire ce que j'ai écrit. Et d'autant plus que je mets les liens sur les documents sources. C'est écrit noir sur blanc dans les documents de l'Europe. Nouveau procédé, taux d'ARN messager. Il y a d'ailleurs des députés européens qui avaient alerté il y a plus d'un an sur ce sujet-là, en disant attention, mais sauf que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Ben, ça veut dire clairement vous êtes des cobayes. On vous a vacciné avec un produit sur lequel on n'avait pas de résultat. Alors ça, c'est une chose, mais on savait, même avec le premier procédé, hein, de toute façon, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le plan de gestion des risques depuis le début ? Aucun résultat sur les femmes enceintes, d'aucune sorte, hein, aucun résultat sur les patients immunodéprimés, sur les patients avec comorbidité, tolérance à long terme inconnue, c'est écrit noir sur blanc depuis le premier plan de gestion des risques de décembre 2020. Et ça n'a pas changé d'un pouce. Hein.
Parce que c'est grave, 2023, ce dernière que vous version. Dites, Coton, c'est vraiment grave, parce que en fait, là où il y avait un consensus, c'est sur l'idée que le vaccin protège des formes graves les personnes qui vont être avec des comorbidités, de par l'âge ou de par la condition. Et ce que vous nous dites, c'est que dans l'étude, ça n'a pas été ciblé, ces catégories à risque. Est-ce que
non,
c'est bien ça?
Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, décembre 2020, il n'y a d'ailleurs aucune preuve d'efficacité sur les cas sévères. Au niveau statistique, bien évidemment. Donc tout ce qui a été annoncé, c'est de l'enfumage total. Quand on vous disait ensuite, ça freine la transmission n'a jamais été étudiée dans le moindre essai clinique. Et pas que les Covid, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas étudié. C'est un critère qui n'est pas étudié. On étudie des critères d'efficacité dans les vaccins, ce n'est pas la transmission. Donc c'est pour ça qu'il y a une méconnaissance totale de la population de ce que représente un pourcentage d'efficacité dans un vaccin. C'est pas du tout, vous avez 95% de gens protégés, pas du tout. Si on fait des calculs, en fait, on reprend les tableaux de résultats, en gros, ça évite à 0,84% des gens d'attraper un Covid léger ou modéré confirmé par test PCR.
J'en reviens à cette définition qui est vraiment très très intéressante, Christine Coton. Covid léger ou modéré, détecté par test PCR. Et il y a aussi cette formule, comptabilisée à partir de 7 jours après la prise de la dose 2. Oui. Donc ça, je voulais faire le parallèle et vous interroger là-dessus. Donc 7 jours après la dose 2, il y a déjà eu la dose 1. Donc on est à peu près à 2 semaines, si je ne me trompe pas.
Oui, 3 semaines, 21 jours à peu près.
Voilà, et je voulais vous interroger là-dessus parce que selon le professeur Raoult, il explique ça par les anticorps facilitants donc de la vaccination. Il dit que ça existe aussi pour la vaccination de la dengue. Il dit que en fait, pendant ces 2 à 3 semaines, il y a un certain nombre, alors le pourcentage, de mémoire, c'est entre 10 et 30% d'après ce qu'il a vu à l'IHU Méditerranée, il disait qu'il y a un déclenchement du Covid suite, juste après la vaccination. On ne peut pas dire à cause de la vaccination, mais juste après la vaccination, et qu'il aussi explique pour lui un des grands mystères pour lui de cette pandémie, qui était que lorsqu'il y a des vagues de vaccination, il y a des vagues de Covid qui arrivent. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus et sur cette idée, justement, comme par hasard, que l'étude, donc là où l'étude officielle, elle commence, vous le dites, 2 ou 3 semaines après la première dose. Donc, est-ce que cette zone-là...
Oui, pas tout à fait, parce qu'il donne les résultats à partir de la dose 1 dans les rapports, mais bon, à partir de la dose 1, ce n'est pas ce qu'on appelle le critère principal. C'est pour ça qu'il faut connaître la méthodologie des essais cliniques. On définit toujours un critère principal d'efficacité. Et si on démontre que le nouveau produit qu'on teste est meilleur que le comparateur, donc en l'occurrence ici, dans les vaccins, c'est un placebo, c'est de l'eau salée qu'on administre aux gens. Si on démontre que c'est meilleur, ben on dit c'est bon, on donne, le produit est efficace.
D'exclure, donc selon la formule, 7 semaines ou les 2 semaines, est-ce qu'il n'y a pas un biais énorme, surtout s'il est prouvé que les anticorps facilitants créent la maladie dans un certain nombre de cas?
Ben oui, mais c'est écrit dans leurs documents. Alors, ils n'écrivent pas ça de façon, ils ne parlent pas d'anticorps facilitants, mais dès le premier plan de gestion des risques, ils parlent de maladies aggravées par la vaccination, qu'ils appellent la VAED. C'est écrit dans le premier plan de gestion des risques. Et donc... qu'est-ce qui se passe en fait pour certaines personnes? Oui, c'est des anticorps facilitants qui, au lieu d'en empêcher d'attraper le Covid, ben, le facilitent. C'est écrit dans leurs documents depuis décembre 2020.
Donc c'était écrit.
Le problème, c'est que les gens ne lisent pas ces documents, ils ne savent pas où les chercher. Bon, moi, c'est mon métier. Ça fait 28 ans que je travaille dans l'industrie pharma, donc je sais quels sont les documents qui sont rédigés par les laboratoires, je sais où les trouver. Donc tous ces documents sont disponibles depuis le début, c'est-à-dire que tout le monde est au courant.
Donc, est-ce qu'il y a mention de pourcentage, justement, par rapport aux déclarations de Raoult sur ces...
Non, mais ça, le pourcentage, à la limite, non. Moi, Ça, c'est ce qu'il a observé en vie réelle à l'IHU. Ce n'est pas les résultats observés dans l'essai clinique, mais bon, de toute façon, dans l'essai clinique, le mode de recueil des cas Covid fait que, de toute façon, c'est faux. Donc, tous ces résultats d'efficacité de l'essai clinique, c'est poubelle. Donc, le problème, c'est qu'on fait courir des risques à la population. Quand on vous dit, faites-vous le même jour la grippe et le Covid. Mais vous avez écrit noir sur blanc dans le plan de gestion des risques, l'interaction avec d'autres vaccins, c'est inconnu. Comment vous pouvez dire à des gens, faites le même jour la grippe et le Covid, puisque vous n'avez pas d'évaluation de la tolérance?
Comment c'est possible que les autorités sanitaires françaises aient conseillé cette double vaccination?
Ah mais ils continuent. C'est pas qu'ils l'ont conseillé, qu'ils ont arrêté, c'est qu'ils continuent. C'est-à-dire que là, l'avis de la HAS, quand même la haute autorité de santé, continue à dire le même jour, vous pouvez faire la grippe et le Covid. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut faire des plaintes, il faut faire des enquêtes. Il y en a qui ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. On a des plaintes pour empoisonnement. Il y a des plaintes de prud'homme pour des soignants suspendus qui n'ont pas voulu s'injecter ce poison parce que eux s'étaient renseignés sur les risques, donc ne se sont pas précipités sans lire aucun document, à se dire « Oh là là, mais je vais faire comme tout le monde, je vais m'injecter un truc sur lequel on n'a aucun recul et puis où il y a clairement documenté qu'il y a des risques et des inconnus », ces travaux-là vont être partout. Moi je fais des présentations aux États-Unis avec des docteurs qui alertent depuis le début, j'ai fait une masterclass en Australie. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. C'est impossible à contredire. D'ailleurs, personne ne m'a contredit depuis presque 2 ans, là. Il me harcèle, il m'envoie des harceleurs, il m'insulte, il me traite de tous les noms. Je ne suis pas biostatisticienne, je n'y connais rien. Enfin, ils inventent, ils disent femme. Ils me ressortent des fagots, un prud'homme que j'ai perdu en 2016 pour montrer à quel point je suis un être mauvais, une harceleuse notoire, ce qui n'a strictement rien à voir avec tout ceci. Voilà, là on en est. Là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un imprimé écran d'un mail, maintenant ils en sont à dire que les hôpitaux vont toucher un chèque, enfin le service qui aura le plus fort taux de vaccination grippe Covid confondu va toucher un chèque. Mais on va aller jusqu'où dans la fumisterie là? Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus dans la science. Hein.
Là, c'est un document que je vous demanderai peut-être, parce que c'est vraiment intéressant. Est-ce que cette pression que vous avez ressentie, que vous ressentez encore, elle passe aussi par des formes de censure? Je pense que sur LinkedIn, vous avez eu...
Ils ont fait sauter mon compte, ouais, effectivement. Quand j'ai partagé mon rapport, j'ai eu la visite du département d'État américain, c'est-à-dire la CIA, de gendarmerie nationale, ministère des Armées... ministère de l'Intérieur, tout un tas de personnes de l'OMS, de Apple, enfin des profils même un peu inattendus, hein, en 2 jours.
Christine Coton, quand vous dites
33 avocats.
Christine Coton,
toujours les procès. Hein.
Quand vous dites la visite, les tous gens que vous avez énumérés, vous parlez sur votre compte LinkedIn ou en physique?
Oui, avant qu'ils le fassent sauter, 133 avocats.
D'accord.
Eh ben venez faire les procès, les amis, je vous attends.
À ce jour, aucun procès contre vous, en tout cas. Mais
c'est impossible.
Est-ce que ce n'est pas une forme d'intimidation, tout ça? Est-ce que vous le ressentez?
Oui, voilà. Là, j'ai porté plainte récemment. Il y a des gens qui me harcèlent depuis un an et demi, qui viennent essayer de faire de l'intimidation dans mes conférences, parce que j'ai commencé à donner quelques conférences pour expliquer, continuer à expliquer aux gens. Au niveau méthodologique, c'est zéro. De toute façon, ce n'est pas possible de contredire. C'est mon métier et ce n'est pas le leur.
Si c'était simplement une fiction, on pourrait dire que c'est un roman de la falsification et de l'approximation, mais c'est basé, comme vous le disiez, sur des documents réels. En page 233, vous expliquez que les données concernant la mortalité due au Covid, donc la réduction de la mortalité grâce au vaccin, ne sont pas significatives, puisqu'il y a un seul décès dans le groupe vacciné contre 2 dans le groupe placebo. Et j'imagine que...
C'est pas ça, c'est que ça n'a pas été testé dans l'essai clinique, ce n'est pas un critère d'efficacité de l'essai clinique. Ce n'est pas étudié.
D'accord.
La mortalité n'est pas étudiée.
Alors que finalement, ça semblerait, en tout cas la communication a été faite, sur ça, c'est-à-dire que finalement, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la transmission, le risque de transmission, comme on en parlait tout à l'heure, mais l'idée était que ça protégeait du décès et des formes graves.
Oui,
Mais ce
bah
que vous dites, c'est que ça, c'est pas,
ça
ça n'a pas
s'appelle
été
une
étudié.
vaste fumisterie.
Donc on a étudié simplement le nombre d'apparitions des cas modérés et voilà, mais pas des, on n'a pas
Et je
focalisé
veux
sur les
dire,
cas.
le pire, c'est que c'est Pfizer, par exemple, mais c'est pareil pour les autres labos. Et ils nous écrivent à la page 38 du rapport clinique sur les 12-15 ans, ils nous écrivent les bénéfices inconnus et les données encore manquantes associées au vaccin sur les adolescents 12-15 ans sont les mêmes que sur les individus de plus de 16 ans. À savoir la durée de la protection, l'efficacité dans certaines populations à haut risque de Covid sévère, l'efficacité chez les gens déjà infectés. Ah oui, attention, en plus, c'est fait sur des gens qui n'ont jamais eu le Covid. Alors, autrement dit, à ce jour, qui n'a jamais eu le Covid? Je ne sais pas, mais pas grand monde. L'efficacité future influencée par les changements, voilà, du virus, c'est-à-dire les variants, etc. L'efficacité sur les cas symptomatiques, l'efficacité sur les effets à long terme de Covid, l'efficacité contre la mortalité, l'efficacité contre la transmission. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'avril 2021 sur les ados. Donc je ne sais pas, moi, ce que font les agences de santé. Soit ils ne lisent plus les documents. Enfin, je vais vous dire, en fait, Hugo, là, en fait, en ce moment, moi, je suis extrêmement triste de voir tous ces gens qui témoignent d'ailleurs dans mon livre et sur les réseaux sociaux, qui sont littéralement en train de se dégrader, des jeunes qui étaient en pleine santé, des maladies de Charcot, des troubles des règles ayant donné lieu à des ablations d'utérus, des troubles neurologiques extrêmement invalidants, des douleurs terribles, des spondylarthrites, des méningo-encéphalites, il y a des choses absolument terribles. Et on continue à nous raconter à la télé que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Il y a un rôle vraiment terrible des politiques, des médias, c'est vraiment dégueulasse ce que ces gens font à toutes ces victimes, de continuer à ne pas en parler, de continuer à dire qu'elles n'existent pas. Parce que moi, je me fais harceler, mais elles aussi, hein, se font
Et ce
discréditer.
que vous expliquez, Christine Coton, c'est aussi que comme il n'y a pas de causalité qui est démontrée, comme il y a vraiment une grande retenue, pour être poli, une grande retenue sur le fait de reconnaître les victimes suite au vaccin, parce qu'il y a vraiment des cas qui sont troublants, cela entraîne aussi que ces victimes ne sont pas reconnues, donc pas indemnisées, n'ont
C'est
pas
ça.
accès aux droits sociaux comme les personnes handicapées ou les personnes qui ont, par
Voilà.
exemple, fait l'objet d'une erreur médicale. Donc vous avez aussi ce côté lanceuse d'alerte avec beaucoup de personnes qui ont des effets secondaires graves, qui sont invalidés, vous parliez de jeunes,
Oui, alors quand elles ont de
et
la famille.
qui vont en dernier recours, comme ils sont laissés, on pourrait dire, un peu à la rue par les autorités, viennent vers vous et vous devenez un peu leur porte-parole. C'est aussi une partie de votre action maintenant de leur
Oui,
donner la
ben oui.
parole dans les médias et sur vos différentes tribunes.
Exactement. Ben, je me suis retrouvée à faire ce rôle-là malgré moi, puisque a priori un biostatisticien, ce n'est pas quelqu'un qui est en contact direct avec les victimes. Ben, il s'est trouvé que j'ai commencé à parler à beaucoup de monde. J'ai un carnet d'adresses assez fourni en victimes qui n'existent pas pour les autorités, ni pour les politiques, ni pour les médias, ni pour la population. Et je suis quand même extrêmement triste que la population générale ne se réveille pas et qu'il continue à être dans ce déni, puisqu'en fait, il participe à laisser ces gens se dégrader, puisque n'étant pas reconnus, pas indemnisés, ou même étant indemnisés. Mais le problème, c'est que ben, comme on ne fait pas de recherche, on n'a pas de centre spécialisé pour essayer de trouver ces pathologies qui ressemblent à du charcot, qui n'en sont pas vraiment, qui ressemblent à de la fibromyalgie, mais qui n'en est pas vraiment. On a des tas de choses qui sont comme ça, un peu bizarres, qui sont apparues depuis ces vaccins. Il faut faire de la recherche sur ces projets-là. Et tant qu'on a ce déni de la population qui laisse agoniser un certain nombre de personnes, ben, ça ne se fera pas. Donc il faut vraiment que les gens se réveillent, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai pris un garde du corps pendant plusieurs mois parce que quand j'ai écrit ça et que j'ai vu toutes ces visites sur mon profil LinkedIn, ben, je me suis dit que c'était quand même assez inquiétant et qu'il fallait que je protège ma vie. Il y a des gens qui ont pris des risques dans le monde en mettant en péril leur propre vie pour alerter les autres. Et quand je vois cette population qui continue à dormir, à être dans le déni, de se dire qu'eux, ils n'ont rien, donc ça n'existe pas, c'est foncièrement triste de voir tout ça, cette indifférence de cette humanité qui perd son humanité petit à petit, hein, on le voit partout en ce moment. Ben voilà, que ça continue comme ça, mais un jour ou l'autre, tout se paye, quoi. Voilà, tout se paye.
Merci Christine Coton d'avoir été avec nous. On reste en contact aussi pour ce côté qu'on a à peine abordé, qui est un peu votre côté porte-parole des victimes. Et aussi,
oui, ben, il est quand même important de donner le sous-titre. Hein, le sous-titre de mon livre, c'est « Vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée ». Donc la catastrophe est en cours. Là, a priori, vu ce que je vois, c'est de pire en pire.
Donc réfléchissez et lisez ce livre. Guy Trédaniel, éditeur aussi courageux de l'avoir publié, « Tous vaccinés, tous protégés », l'avis d'une biostatisticienne, quelqu'un qui est toujours en bon terme avec l'industrie pharmaceutique, qui est toujours dans le milieu et qui n'a pas de rancœur contre le système en lui-même. Donc merci de votre éclairage, Christine Coton.
Oui, parce qu'encore une fois, ce qui a été fait là, c'est complètement habituel. Inhabituel et il faut absolument que ça ne recommence pas. Et là, on est parti pour recommencer, puisqu'on a des dizaines de vaccins en développement qui vont suivre la même méthode que ces vaccins Covid-19. Donc, on a ouvert la boîte de Pandore et il y a des tas de labos qui s'engouffrent là-dedans, puisque ben, quand on peut faire en 9 mois ce qu'on faisait en 10 ans, évidemment, c'est rentable.
Merci beaucoup. À très bientôt, beaucoup. Christine Coton.
Merci.
La Lorraine a enfin sa radio. RPL. La radio du pays lorrain.